Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant la sainteté. Nous arrivons à l'étude numéro 4 et notre thème sera le remède pour notre motivation. Chers amis, prendre plaisir en la loi, c'est aimer, avoir un fondement solide, comme le piéton est heureux de sentir le sol dur sous ses pieds, après avoir emprunté un faux raccourci à travers un champ de boue. En effet, la loi, elle est bonne, car la fermeté est bonne, n'oublions pas. Voyez-vous, Dieu se soucie assez de nous pour nous montrer le chemin à suivre et diriger nos pas. Ce serait horrible d'habiter cette terre uniquement avec la vague idée qu'il y a peut-être un Dieu, sans savoir ce qu'il désire pour nous. La loi divine est un don. Dieu nous donne la loi car il est amour. Merci Seigneur. Chers amis, quelle place reste-t-il pour la loi? De toutes les questions théologiques épineuses de la Sainte Bible, je crois que la plupart ou la plus difficile, c'est celle du rôle de la loi dans la vie du chrétien que nous sommes. D'une part, le chrétien n'est plus sous la loi, mais il est maintenant sous la grâce, selon Romains, chapitre 6, verset 14, et chapitre 7, verset 6. La loi de Moïse, elle était temporaire et elle servait à nous conduire vers Jésus-Christ. Galates chapitre 3, versets 23 à 26. D'autre part, nous savons que la loi est sainte, qu'elle est juste et bonne. Notez Romains chapitre 7, verset 12, et que Dieu notre Père s'attend toujours à ce que nous obéissons à sa loi parfaite et royale. Il l'est dit dans Jacques tout cela, chapitre 1, verset 25. Notez aussi le chapitre 2, verset 8. Donc, le même apôtre Paul, qui a dit que nous ne sommes plus sous la loi, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 20, ce même apôtre Paul a dit aussi être sous la loi de Jésus-Christ, selon le verset 21. Donc, les chrétiens parlent souvent des trois fonctions de la loi. La première, c'est de nous diriger vers Jésus-Christ, en nous convainquant de notre état de pécheur. La deuxième, c'est de limiter la méchanceté du monde. La troisième, c'est de nous aider à prendre, ou plutôt à apprendre, quelle est la volonté véritable de notre Seigneur, la loi étant une sorte de plan pour parvenir à la sainteté. Alléluia. Les chrétiens sont donc généralement d'accord en ce qui concerne les deux premières fonctions. La controverse touche plutôt la troisième, à savoir si s'agit d'un but légitime ou même principal de la loi. Pas besoin donc d'être membre d'une église de confession réformée pour croire que la loi a une place importante dans la vie du croyant. Certains chrétiens croient que la loi est encore aujourd'hui l'outil de Dieu pour parvenir à la sainteté. D'autres chrétiens croient que la loi ne s'applique davantage à la vie des croyants du Nouveau Testament. Excusez-moi. Donc, ces deux points de vue ne sont pas toujours entièrement opposés, pas du tout. Ceux qui déclarent que la loi est importante encore aujourd'hui font généralement une distinction entre des parties de la loi qui s'appliquent directement à nous et d'autres qui ne s'y appliquent que indirectement. En règle générale, cela exprime que la loi morale, par exemple, telle que les 10 commandements, que cela constitue une norme, mais les aspects civils et judiciaires de la loi, elles ne font que pointer ce qui s'applique à tous les peuples et de tous les temps. Donc, en revanche, ceux qui déclarent que nous ne sommes pas obligés d'observer la loi, ils s'empressent de spécifier qu'ils croient tout de même qu'elle contient d'authentiques principes moraux qui s'appliquent au monde entier. Alors les deux points de vue reconnaissent que la loi, elle a été donnée dans un certain contexte et à une certaine époque dans l'histoire de la rédemption. Ils reconnaissent tous les deux, que la loi a encore son mot à dire sur la façon dont nous vivons en tant que chrétiens aujourd'hui. La confusion à ce sujet, elle est semée en partie par les différents sens du mot « loi » dans la Sainte Bible. Il fait parfois référence au texte de l'Ancien Testament, c'est-à-dire à la Torah, qui sont les 5 premiers livres de la Bible, ainsi qu'à la loi de Moïse, ou simplement à ce que Dieu veut que nous fassions. Alors que nous ne sommes pas sous la loi, c'est-à-dire au sens où nous sommes condamnés par elle, ou attachés à l'ancienne alliance de Moïse, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6 et Hébreux chapitre 8 verset 13. Nous sommes donc sous la loi en ce que nous devons toujours, nous devons obéir à notre Seigneur et à toute expression de sa volonté pour notre vie. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 21. La loi de Dieu, elle ne sauve pas, d'accord, car ce serait du légalisme. Mais cependant, toute la Sainte Bible, elle sert à notre édification et à nous équiper pour de bonnes œuvres, selon 2 Timothée chapitre 3 verset 16 et 17. Ainsi, quel que soit l'enseignement de la Sainte Bible, nous devrions y croire, et oui, et quoi qu'elle commande, par des préceptes, par des exemples, ou même par des histoires et encore par des chants, eh bien oui, nous devrions tout simplement y obéir. Chers amis, voyez-vous, nous devrions faire ce que la Sainte Bible nous dit de faire. Cependant, je veux aller encore un peu plus loin. Je veux que vous aimiez et que vous vous appuyiez sur les impératifs de l'Écriture sainte sans éprouver la moindre honte ni la moindre crainte. Je sais que le danger des impératifs est de se mettre à vivre entièrement selon la loi, sans prendre l'Évangile en considération, transformant ainsi le christianisme en une religion de bons conseils plutôt que de bonnes nouvelles. Si la loi sert à convaincre et à condamner, alors que l'Évangile procure la grâce et le pardon, son seul avantage est qu'elle nous conduit vers l'Évangile. Je dis bien vers l'Évangile. Attention, il n'y a rien de mal à encourager l'obéissance au commandement de Dieu, pas du tout. S'encourager à observer les impératifs des Saintes Écritures n'est pas du tout anti-biblique, bien au contraire. Les demandes divines ne sont absolument pas de mauvaise grâce, bien au contraire. Bien au contraire, recevoir la loi, ça, c'est une véritable grâce. En général, nous voyons la loi comme étant un tremplin vers l'Évangile. Et ça, c'est vrai. Nous voyons les standards de Dieu, puis nous voyons notre péché et nous constatons notre besoin d'un sauveur. Il est tout aussi juste d'affirmer que l'Évangile est un tremplin vers la loi et dans le livre des Exodes, Dieu a premièrement fait sortir son peuple d'Égypte et il leur a ensuite donné les 10 commandements. Dans l'épître aux Romains, l'apôtre Paul expose la grâce. Il expose la grâce souveraine et gratuite de Dieu, ainsi que l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ dans les chapitres 1 et jusqu'au chapitre 11, figurez-vous. Par la suite, du reste, au chapitre 12 jusqu'au chapitre 16 de Romains, il nous explique comment vivre à la lumière de cette miséricorde. Et dans Saint Jean chapitre 4, Jésus parle à la femme samaritaine au sujet d'une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Puis, il lui montre son péché et lui commande d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Je ne propose aucune formule stricte d'évangélisation. Je mets simplement en évidence le fait que la bonne nouvelle de l'Évangile, elle mène à des instructions de grâce visant l'obéissance à Dieu notre Père. Certains chrétiens font l'erreur d'opposer l'amour à la loi, comme si les deux s'excluaient mutuellement, se forçant ainsi à choisir entre une religion d'amour ou une religion de justice. Eh bien, voyez-vous, une telle équation, elle est totalement anti-biblique. biblique. Premièrement, aimer. Aimer est un commandement de la loi. Notez Deutéronome chapitre 6, verset 5, Lévitique chapitre 19, verset 18, Saint Matthieu chapitre 22, verset 36 à 40. Donc, si vous recommandez à quelqu'un d'aimer, vous lui recommandez aussi d'obéir à la loi. Aimer, obéir à la loi. L'inverse est tout aussi vrai. Si vous dites que la loi n'a pas d'importance, eh bien vous affirmez que l'amour n'a pas d'importance non plus. Car l'amour, c'est le résultat de la loi. Je répète, si vous dites que la loi, elle n'a pas d'importance du tout, dans ce cas, vous affirmez que l'amour n'a pas d'importance du tout non plus, car l'amour, c'est le résultat de la loi. De plus, considérez les liens très étroits que Jésus a établi entre l'amour et la loi. Nous avons déjà vu que pour Jésus-Christ, aimer, c'est tout simplement observer la loi. Je répète, nous avons déjà vu que pour Jésus, notre Sauveur bien-aimé, aimer, c'est observer la loi. Notez Saint Jean, chapitre 14, verset 15. Cependant, Jésus va même plus loin. Jésus associe la communion avec Dieu et l'obéissance à ses commandements. Voyez-vous, lorsque nous gardons ses commandements, nous l'aimons. Et lorsque nous aimons Jésus-Christ, notre Père Céleste nous aime, et quiconque est aimé du Père est aimé de Christ, qui se révèle alors à eux. Notez Saint Jean chapitre 14, verset 21. Il vaut la peine de répéter cela. Lorsque nous gardons ses commandements, eh bien nous l'aimons. Et lorsque nous aimons vraiment Jésus, eh bien le Père, notre Père Céleste, nous aime parce que nous aimons son Fils bien-aimé, Jésus. Et quiconque est aimé du Père est sans autre aimé de Christ qui se révèle alors à nous tous. Saint Jean chapitre 14, verset 21. Ainsi, nous ne pouvons demeurer dans l'amour de Jésus-Christ sans premièrement garder ses commandements. Saint Jean, chapitre 15, verset 10. Et cela signifie qu'il n'y a pas de plus grande joie que de poursuivre la sainteté. Selon le verset 11 de Saint Jean chapitre 15. La loi de Dieu est donc une expression de sa grâce, car elle est aussi l'expression de sa personne. Les commandements, ils nous montrent qui est vraiment Dieu et ce qu'il aime et ce qu'il déteste. Test et comment être saint comme lui. Détester les règles, c'est tout simplement détester Dieu, car il a voulu que ces règles révèlent sa nature. Dieu a donné la loi pour que son peuple soit sanctifié et jouisse d'une communion avec lui. C'est pourquoi Les psaumes déclarent à plusieurs reprises que les commandements de Dieu sont une source de délices. Même si l'alliance de Moïse est devenue caduque, eh bien les psaumes, oh oui, les psaumes constituent un exemple pour nous. L'homme heureux, comme David, trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il la médite jour et nuit. Psaume, chapitre 1, verset 2. Les ordonnances et les commandements de l'Éternel sont plus doux que le miel et plus précieux que l'or. Notez Psaume, chapitre 19, verset 10. Voyez-vous, le peuple de Dieu se réjouit de ses statuts et contemple les merveilles de sa loi. Psaume 119, verset 18. Il désire donc de rester ferme dans l'observation de ses statuts. Verset 5 du psaume 119. Donc, aux yeux du croyant, la loi, elle est toujours vraie et bonne, car elle est notre espoir, elle est notre réconfort et elle est le sujet de nos louanges. N'ayons donc pas peur de nous appuyer sur la loi, non pas pour mériter la justification, non, 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 mais pour exprimer convenablement que nous l'avons reçue. Il n'est donc pas mal de conclure un sermon avec une exhortation à agir. Il n'est pas du tout déplacé de nous encourager les uns les autres à l'obéissance. Certes, personne ne dit « continuons à pécher pour que la grâce surabonde » comme certains le font. Et le pense. Romains chapitre 6, verset 1. Je répète, personne ne dit vraiment. Continuons simplement à commettre des péchés pour que la grâce puisse surabonder. Voyez-vous, certains chrétiens laissent très peu de place à la loi. Oh oui, ils laissent très peu de place à la loi dans leur poursuite de la sainteté. Voici par exemple ce qu'un érudit a déclaré au sujet d'un pasteur d'Angleterre au XIXe siècle. Il croyait que la loi était utile pour convaincre les hommes de leur besoin d'un sauveur. Néanmoins, il lui accordait très peu, voire aucune place dans la vie chrétienne, car il affirmait tout simplement que la grâce offerte gratuitement, qu'elle enseigne les bonnes œuvres. Le problème n'est pas d'insister sur la grâce offerte gratuitement, mais plutôt de présumer que les bonnes œuvres découlent invariablement d'une simple insistance sur l'Évangile. Beaucoup de chrétiens, même des pasteurs, ne savent que faire des commandements et ils ont peur de mentionner l'obéissance. Le monde croit peut-être que nous sommes homophobe, mais la nomophobie, je dis la nomophobie, c'est-à-dire la peur de la loi, constitue un problème encore beaucoup plus alarmant. Si seulement nous croyons vraiment profondément alors l'obéissance, elle suivrait d'elle-même automatiquement. C'est ce que certains pensent. Donc, pas besoin de commandement, ni aucun effort. Cependant, voyez-vous, la Sainte Bible ne raisonne pas du tout ainsi. Elle emploie aisément l'expression « ainsi donc ». Ainsi donc, arrêtez de faire ceci et commencez à faire cela. Ainsi donc, obéissez au commandement de Dieu. Les bonnes œuvres devraient toujours être enracinées dans la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus. Cependant, nous nous attendons bien trop à ce que tout coule de source et nous insistons trop peu sur l'enseignement de l'obéissance à la loi par un esprit bien disposé. Donc, cette obéissance rendue possible par le Saint-Esprit, c'est la réponse qui convient à la grâce, oui, à la grâce qui nous est offerte gratuitement. Ainsi, Martin Luther s'est moqué de l'utilisation erronée de la loi avec la même intensité qu'il a accueilli son rôle positif dans la vie du croyant. La formule luthérienne de concorde marque un point. Nous croyons, nous enseignons et nous confessons qu'il faut insister sur la prédication de la loi avec diligence, non seulement à l'intention des incrédules et des impénitents, mais aussi à l'intention des véritables croyants. Oui, des véritables croyants qui sont vraiment convertis, qui sont régénérés et qui sont justifiés par la foi. Donc, chers amis, les enseignants doivent donc enseigner la loi avec assurance. Les parents doivent ou devraient insister sur l'obéissance avec honneur. La loi, elle peut et elle doit être recommandée avec insistance auprès des croyants, non pas pour les condamner, pas du tout, mais pour corriger et pour promouvoir l'image de Jésus-Christ dans leur vie, dans nos vies. Les indicatifs, tout comme les impératifs de la Sainte Bible, elles viennent de Dieu, conçus pour notre bien et offerts dans la grâce. Chers amis, l'un ou l'une des raisons pour lesquelles je crois que les chrétiens n'en peuvent plus d'entendre parler de la loi, c'est qu'ils n'ont jamais su pourquoi ils devaient y obéir. Les impératifs nous écrasent davantage qu'une tonne d'études bibliques pour la simple raison que nous n'avons aucune motivation pour nous aider à observer les commandements de Dieu. Tout cela se résume à Dieu qui l'a dit. Alors faites-le. Sinon, à l'opposé, certains chrétiens semblent dire que la gratitude, qu'elle est la seule source de motivation légitime pour obéir. Regardez tout ce que Jésus a fait pour vous. Et maintenant, soyez donc reconnaissants et faites de bonnes œuvres. Ces deux motivations-là, pour la sainteté, elles sont justes Mais elles ne sont pas les seules. Jésus, comme nous le savons, il est le médecin par excellence. Et comme tout bon médecin, il rédige différentes ordonnances pour différentes maladies. L'Évangile est toujours le bon remède à notre sentiment de culpabilité par rapport au péché, mais en ce qui concerne le triomphe sur le péché, Jésus applique diverses posologies. Il sait très bien que les personnalités, les péchés et les situations, elles varient toujours. Ainsi, la bonne dose de motivation pour la sainteté dans une situation unique, pour une personne en particulier qui se trouve confrontée à un péché précis, cela n'est pas la même que pour une autre personne dans d'autres circonstances. Donc Jésus possède plusieurs médicaments pour susciter la motivation. Il ne s'agit pas, comme ce célèbre professeur d'éducation physique qui recommande absolument le même traitement à tout le monde, appliquer de la glace et avaler quelques comprimés d'analgésique, il n'est pas comme certains charlatans qui prescrivent systématiquement la saignée. Un taux de cholestérol élevé, tout simplement faisant une saignée, et cela réglera tout le problème. Vous avez de l'incontinence, on va vous saigner. Vous avez la goutte, 3 ou 4 saignées feront l'affaire. Or, la bonne nouvelle, c'est que la Sainte Bible est un très grand livre, diversifié et empreint de beaucoup de sagesse. Dans ce livre, vous trouverez une grande variété d'ordonnances qui vous encouragera à obéir aux commandements de Dieu. Par exemple, le catéchisme de Heidelberg donne 4 raisons de pratiquer la justice et exprimer notre reconnaissance pour ce que Dieu a fait, afin qu'il soit glorifié par notre vie, que nos fruits témoignent de notre foi, et que par notre vie sainte, des âmes puissent être gagnées à Jésus-Christ. Dans le même ordre d'idées, le célèbre homme de Dieu et écrivain de beaucoup de livres bibliques, John Owen, il mentionne plusieurs motivations tirées de l'Évangile pour obéir. Il dit « Les bonnes œuvres sont absolument nécessaires, car Dieu les a préparées d'avance. Notre sainteté est donc l'un des aboutissements de l'amour de Dieu pour sa plus grande gloire. Notre obéissance glorifie et honore Dieu. Elle nous procure honneur et paix, nous rendons donc utiles pour Dieu, et elle bénéficie au monde en les convainquant de leur état de pécheurs et les conduisant au salut. Bénéficions ainsi à la société, elle témoigne de notre justification et de notre adoption. Elle est donc l'expression de notre reconnaissance. » Francis Turretin, un autre homme de Dieu, il énumère 5 principales intentions de la sanctification qui peuvent toutes être trouvées en la mort de Jésus-Christ, la folie du péché, la haine de Dieu contre le péché, l'amour indescriptible de Jésus-Christ, le droit de Christ sur nous et le fait que mort au péché, nous sommes rendus saints, nous sommes rendus vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Voici, chers amis, toute une série, oh là là, et comment ? Toute une série de passages où la Sainte Bible nous motive à poursuivre la sainteté. Écoutez très attentivement et s'il vous plaît, si vous pouvez, notez les indications bibliques que je vous donne. Pour commencer, nous avons le devoir. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 15. Avez-vous noté ? Dieu connaît tout et il voit tout, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ecclésiaste chapitre 12, verset 16. C'est juste. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Éphésiens, chapitre 6, verset 1. C'est pour notre bien. Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants, après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Deutéronome chapitre 12, verset 28. Dieu montre l'exemple. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Christ, Jésus, montre l'exemple et marchez dans l'amour. À l'exemple de Jésus-Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Éphésiens, chapitre 5, verset 2. L'assurance. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 10. Être un chrétien actif. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 8. Le retour de Jésus, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, versets 11 et 12. Notre demeure n'est pas ici. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 11. Gagner notre prochain pour Jésus-Christ. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 12. Élever une nation. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Proverbe chapitre 14, verset 34. Le bien de tous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? Saint Matthieu, chapitre 5, verset 13. L'efficacité de nos prières. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Premier épître de Pierre, chapitre 3, verset 7. La futilité du péché. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Saint Matthieu, chapitre 6, verset 27. La folie du péché. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, il ou elle sera semblable à un homme ou une femme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Saint Matthieu, chapitre 7, versets 26 et 27. La promesse de la grâce à venir. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Saint Matthieu, chapitre 6, verset 33. La promesse d'un jugement à venir. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Romains, chapitre 12, verset 19. La peur du jugement à venir. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Hébreux, chapitre 10, versets 26 et 27. La certitude de notre héritage. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens beaucoup meilleurs et qui dureront toujours. Hébreux, chapitre 10, verset 34. La communion des saints. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hébreux chapitre 12, verset 1. La conduite exemplaire des autres. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Hébreux chapitre 13, verset 7. La mauvaise conduite des autres. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6. Nous avons été créés pour de bonnes œuvres, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Dieu est le maître et nous sommes ses serviteurs. Vous, de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Saint Luc, chapitre 17, verset 10. La crainte du Seigneur. Connaissons donc la crainte du Seigneur. Nous cherchons à convaincre les hommes. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 11. L'amour du Seigneur. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. 1er Épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 11. Rendre Dieu manifeste. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous, nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. 1er Épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 12. La reconnaissance pour la grâce. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains, chapitre 12, verset 1. La gloire de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20. La nature de Dieu. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Lévitique, chapitre 11, verset 44. L'œuvre de Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode chapitre 20, versets 2 et 3. Plaire à Dieu. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Hébreux, chapitre 13, verset 16. Évitez les pièges du diable. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Éphésiens, chapitre 4, versets 26 et 27. Une récompense éternelle. Recommandez-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie est véritable. 1 Timothée, chapitre 6, versets 18 et 19. Tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Saint Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Il y a l'amour pour Christ. En effet, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Saint Jean, chapitre 14, verset 15. Pour que notre joie soit parfaite. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Saint Jean, chapitre 15, versets 10 et 11. Obtenir la faveur de Dieu. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Proverbe chapitre 12, verset 2. Et pour terminer notre série, nous avons l'union avec Jésus-Christ. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps de péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains, chapitre 6, versets 5 et 6. Certes, chers amis, cette liste peut sembler accablante. Voyez-vous, Dieu n'exige pas notre obéissance simplement parce que c'est ainsi et voilà tout. Mais il donne des dizaines de raisons spécifiques pour lesquelles il faut être saint. Dieu peut administrer divers médicaments pour susciter notre motivation. Si vous luttez avec la pornographie, il pourrait vous rappeler votre identité en Christ ou vous avertir que les immoraux sexuels n'hériteront pas et jamais du royaume de Dieu. Si vous luttez avec l'orgueil, Dieu pourrait vous assurer qu'il fait grâce aux humbles, ou vous rappelez que vous suivez un Messie qui, lui, a été crucifié pour vous. Il peut mettre en évidence votre adoption, votre justification, votre réconciliation ou votre union avec Jésus-Christ. Dieu peut vous inciter à aimer et à faire de bonnes œuvres en ayant recours à des avertissements et des promesses dont l'amour et la crainte, s'inspirant ainsi d'exemples positifs et négatifs. Il peut vous rappeler qui vous êtes et qui vous étiez ou qui vous êtes en train de devenir. Dieu peut faire appel à ce qu'il y a de bon en vous et chez les autres également, tout cela pour sa propre gloire. Vous pourriez sans doute trouver une centaine de raisons bibliques pour être saint. Plus vite nous explorons et interrogerons ces raisons, mieux nous sommes équipés pour combattre le péché et plus nous désirerons vivement nous efforcer d'être comme Jésus-Christ et plus nous sommes prêts à affirmer avec l'apôtre Saint Jean « Oui, ces commandements ne sont vraiment pas pénibles. » 1er épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 3. Amen. Chers amis, c'était peut-être un peu laborieux. Et dans ce cas, il n'est pas permis, je voulais dire par là, il n'est pas défendu, voilà le mot. Il n'est donc pas défendu. Pourquoi pas? Soyons humbles d'écouter cette étude une deuxième fois. Moi-même, souvent, je dois relire parfois certains passages 3 à 4 fois parce que je les ai mal compris la première fois. Et oui, même à mon très grand âge. Prions maintenant, et cette prière, elle est pour vous comme pour moi, c'est-à-dire pour nous tous. Prions. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais toutes mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Oui, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Tu seras sans reproche dans ton jugement. Purifie-moi avec l'hysope et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi, oui, annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Oh, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Si tu aurais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. les sacrifices qui sont agréables à Dieu. C'est un esprit brisé. Oui, Dieu, mon Père, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Oh, merci Seigneur, pour ta compassion et pour ton amour. Amen. Et maintenant, je vais essayer de vous mettre quelques chants d'un lointain passé. Oui, c'était des enregistrements que j'avais faits. Oh, c'était des appareils à bandes, tels que le Revox et le Nagra. Et vous pouvez bien imaginer, après avoir transféré ces bandes sur des cassettes, oui, parce que d'abord, je travaillais sur des cassettes, et maintenant sur des CD, ça a beaucoup perdu de la netteté, et parfois il y a même carrément des arrêts, il y a des lacunes, mais le Saint-Esprit est quand même dans ces chants de la plus grande chanteuse de ce temps-là, Mahalia Jackson, qui faisait partie des églises baptistes des États-Unis. Essayons de voir si ça fonctionne. Espérons.
About God's great reward. Got our footstep in there. In your narrow way. Come on, children, let's sing about the goodness of the Lord. Come on, children, let's sing about the goodness of the Lord. Come on, children, let's shout all about God's great reward. Got our footstep every day. Keep us walking in your narrow way. Come on, children. The Lord Almighty has brought salvation, none like it without a doubt. Come on, children, let's sing, oh, the goodness of the Lord. He has been, you know, my all. God's my all, you know. He will never, God won't let me fall. What it's all about, the goodness of the Lord. Yes, my love. Come on, children, let's sing. Come on, children, let's sing. Up the Lord.
When we come to the end of a perfect day, and we thank God for His many blessings, we thank God for some of our loved ones that still remains. We thank God because we are alone and we have no loved one but Him. We thank God for food, and we thank Him for a portion of good health. We thank Him for waking us up this morning. And inasmuch as you can thank Him for all the many good things that He's done to you, for you, can you look over your mind and see what you've done for somebody else? And if you haven't, say, "Dear Lord, please forgive. I'll try." God is a compassionate God. If I have wounds, so today, if I have caught one foot too astray, if I have walked in my own will away, dear Lord, my sins I now confess to Thee. Forgive my sins, Lord, I do not see. Oh Lord, and guide me and Thy keeper be. But dear Lord, please.